Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, il va beaucoup être question de l'Asie dans cette édition d'une semaine d'actualité. Samedi 7 novembre, ravi de vous retrouver. Notre invité est le rédacteur en chef du site d'information Asialiste, il en est même le directeur de la publication. Nous avons privilégié cette semaine l'actualité dans cette région du monde. Et demain dans Idées, nous parlerons des insoumis, des résistants, de ceux qui disent non avec notre invité, le philosophe Tsvetan Todorov. Demain 16h10, temps universel, 17h10 en France. Puisque nous parlons philosophie, rappelons que l'actualité cette semaine, c'est aussi la mort de René Girard, cet anthropologue français qui a fait toute sa carrière aux États-Unis, l'homme qui pensait que les sociétés, pour vivre et survivre, doivent avoir un bouc émissaire. Une semaine d'actualité que vous pouvez écouter en ligne et podcaster également. Bonjour Joris Silbermann.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. Donc vous êtes le directeur de publication et le rédacteur en chef de ce beau site Asialiste. Vous étiez venu déjà en parler au début du mois de septembre. Comment se porte-t-il depuis début septembre, depuis deux mois en fait?
Eh bien, on vient juste de franchir une étape extrêmement importante depuis quelques jours, depuis le 28 octobre, puisqu'on est passé au mode freemium, c'est-à-dire qu'une partie du site reste gratuite. Les revues de presse, toutes les chroniques participatives de nos experts, de nos témoins en Asie notamment, et deviennent sous-abonnés pour les abonnés, tout ce qui est en force, c'est-à-dire les analyses en profondeur, les infographies, les entretiens longs, les enquêtes de terrain, la vidéo, les photoreportages, le multimédia.
Alors rappelons ce que vous voulez faire avec ce site Asialiste, Joris.
Asialiste, c'est censé être un site qui permette non pas de régurgiter l'ensemble des news, des hard news, des dépêches qui circulent gratuitement sur Internet et qui sont agrégées par Google News par exemple, mais c'est plutôt de prendre du recul, de mettre tout cela en perspective et surtout, ce qui n'existait plus, de donner un site qui résonne sur l'Asie du Japon jusqu'au Pakistan et même on travaille sur l'Asie centrale.
Alors dans la deuxième partie de l'émission, Joris Silbermann, à présent point sur l'actualité de ces dernières heures. Nous partirons pour l'Afrique, évidemment, rendez-vous aussi avec vos messages.
RFI.
Avant d'entrer de plein pied dans 7 jours d'actualité avec vous, Joris, souvenons-nous, c'était il y a 2 ans, l'assassinat à Kidal au Nord Mali de nos amis Ghislaine Dupont et Claude Verlon, Laetitia Besin.
C'était il y a 2 ans et depuis pas grand-chose. Les assassins de Ghislaine et Claude restent introuvables. Le juge d'instruction Marc Trévidic saisit en avril 2014 un magistrat pugnace dans lequel les familles avaient placé beaucoup d'espoir a dû récemment quitter ses fonctions. Il est désormais remplacé par Jean-Marc Herbault. Tout comme son prédécesseur, il va devoir faire face à plusieurs obstacles, à commencer par le secret défense, véritable frein dans l'enquête. Avec une telle déclassification, l'armée française pourrait lever le voile sur de nombreuses zones d'ombre, notamment sur la mort d'Abdelkrim Targhi, l'émir d'Acmi qui a revendiqué l'assassinat de nos confrères. Il a été abattu au printemps dernier par les forces spéciales françaises, mais plusieurs questions restent en suspens. A-t-on retrouvé sur lui des documents intéressant l'enquête? Là encore, la justice attend des précisions de l'armée. Mi-juillet, François Hollande a donné son feu vert à la déclassification des documents. Selon la loi, le ministre de la Défense aurait dû saisir sans délai la commission consultative du secret de la Défense nationale. Or, 5 mois après, il ne l'a toujours pas fait. C'est ce qu'explique l'ancien ministre de la Défense, le républicain Gérard Longuet, qui s'étonne de ce délai excessif. Une attente et une absence de plus en plus difficiles à supporter pour les parties civiles.
L'enquête piétine donc, une situation que regrette évidemment Marie-Christine Saragosse, la présidente de France Média Monde, qui regroupe RFI et France 24. Écoutez ce qu'elle a dit au micro de Franck Alexandre après une journée de mobilisation.
Moi, ce que j'aimerais, c'est que la procédure devienne extraordinaire, non pas au sens judiciaire du terme, mais dans le sens commun, parce qu'il y a deux maires qui sont dans une course contre la montre pour savoir ce qui s'est passé, pour avoir la lumière et la justice. Et je crois qu'il est temps maintenant de passer à une vitesse supérieure 2 ans après. Et voilà ce que je souhaite et ce que j'espère de cette journée de mobilisation. C'est qu'il y a un coup d'accélérateur donné et qu'avant Noël, on puisse avoir les documents que le juge d'instruction attend. Je crois qu'il faut accélérer maintenant parce que ça fait 2 ans qu'on a l'impression de ne plus avancer. On pouvait le comprendre l'année dernière, mais là, le temps, je sais que le temps de la douleur, du chagrin, de la colère, c'est un temps qui n'est pas celui de la justice. Mais il y a un moment où peut-être on peut essayer de les faire se rapprocher.
7 jours dans le monde.
Et partons tout de suite pour la Chine. Joris Zilberman, Chine qui, à l'occasion de la visite à Pékin de François Hollande, a accepté, sur le papier, de réduire ses émissions de carbone. Shanghai, mardi, Delphine Sureau.
La Chine a accepté ce qu'elle refusait jusqu'ici, un accord contraignant assorti de l'obligation pour les pays de revoir leurs engagements tous les 5 ans. Elle valide aussi le principe qu'un premier bilan sera fait avant 2020, date de l'entrée en vigueur de l'accord qui sera signé à Paris. Pour clore la visite de François Hollande, le premier ministre chinois Li Keqiang a tenu un discours fort. Un développement vert est un devoir de la Chine envers l'humanité, a-t-il dit, et un passage obligé pour le pays qui doit changer de modèle. À l'heure où la croissance chinoise ralentit, Pékin veut tourner la page de l'industrie lourde pour profiter des perspectives qu'offrent les nouvelles énergies et la dépollution. La Chine semble donc décidée à assumer ses responsabilités, elle qui a longtemps joué la carte du pays en développement pour ne pas réduire ses émissions. La baisse de l'activité et donc la consommation d'électricité produite au charbon vont l'aider à remplir les objectifs annoncés à Paris fin juin. La Chine a promis une réduction de son intensité carbone en 2030 de 60 à 65% par rapport à 2005.
Suite d'une semaine d'actualité, alors Joris Zilberman, directeur du site Asialist, j'ai envie de vous entendre là-dessus, sachant qu'il y a un autre problème, il y a une sous-estimation des émissions de charbon de la part de la Chine, 1 milliard de tonnes de CO2 de plus par an entre 2000 et 2012, vous allez nous expliquer ce que ça veut dire peut-être, et moi en tout cas ça me fait penser à une phrase de Churchill, la phrase célèbre, je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées.
Mais sur les statistiques en Chine, c'est très compliqué parce que tous les experts qui suivent la Chine, tous les China Watchers, comme on dit, se gardent bien de prendre au pied de la lettre les chiffres en général, mais simplement, ils se disent, ok, c'est peut-être à quelques pourcents près, ça doit pas être la vérité, mais ça reflète une tendance. Le problème, c'est que là, c'est pas une tendance, enfin, c'est une tendance qui se casse la figure, parce que, pour donner un autre chiffre, cette sous-évaluation de la consommation de charbon par la Chine, eh bien, ça représente 600 millions de tonnes, ce qui, rien qu'en 2012, représente 70% de la consommation annuelle des États-Unis. Ah oui, donc là, il y a une grosse erreur qui a été commise, certainement une erreur qui est surtout due non pas à de la malveillance ou de la manipulation de la part du gouvernement, mais plutôt à l'incurie de la bureaucratie chinoise et du Bureau national des statistiques. Donc là, il y a un souci dans le sens où comment se fier à la Chine quand elle dit voilà, je mets en avant un développement vert, une réduction des émissions de gaz à effet de serre, de CO2 en particulier, voici mes chiffres, etc. Et puis là, on découvre que, en fait, le pays qui est déjà le plus gros pollueur de la planète polluerait encore plus. Alors, elle se pose la question, comment faire confiance à la Chine? Et là, c'est un problème parce que ça veut dire que les plus climato-sceptiques des responsables américains à Washington vont dire, ah ben vous voyez bien, oui, la Chine passe son temps à mentir sur les chiffres de façon à préserver un avantage compétitif dans le commerce international.
Alors on va continuer à parler de la Chine tout au long de l'émission, Joris, mais il y a aujourd'hui à propos de la Chine une rencontre importante, la rencontre de deux présidents chinois en quelque sorte, la République populaire et la République de Taïwan. C'est un événement considérable.
C'est un événement absolument historique pour mille et une raisons. D'abord, il faut dire que Ma Ying-jeou, le président taïwanais, avait juré de ne jamais rencontrer son homologue chinois, président chinois.
Il faut se méfier des promesses des hommes politiques. Hein.
Mais comme dirait Charles Pasqua, les promesses
d'engagement. Ceux qui veulent bien les croire.
Exactement. Donc Ma Ying-jeou, aujourd'hui, tout sourire, présente cette rencontre comme formidable. Alors, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, l'anecdote, c'est comment est-ce que vont s'appeler ces deux présidents, puisque la Chine ne reconnaît pas Taïwan comme un État. Donc, Xi Jinping, le numéro un chinois, refuse d'appeler Ma Ying-jeou Mr. President, Monsieur le Président. Alors, ils ont choisi de s'appeler Mister, tout court, ou Xiansheng, en chinois. L'autre élément, évidemment, très important, c'est pourquoi est-ce que Ma Ying-jeou rencontre à Singapour Xi Jinping. Eh bien, c'est pour rebooster la campagne électorale présidentielle de son parti, le Kuomintang, dont le candidat est Eric Chu, nouveau président, successeur de Ma Ying-jeou, est très mal dans les sondages. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que cette rencontre ne va pas modifier considérablement les relations entre la Chine et Taïwan. Par contre, elle pourrait donner un certain coup de pouce à la campagne du Kuomintang pour la présidentielle de janvier 2016.
RFI.
Suite d'une semaine d'actualité, Joris, et nous allons cette fois revenir sur la victoire sans appel de l'AKP aux élections législatives turques. Le président Recep Tayyip Erdogan en sort renforcé. C'est sans doute pour cette raison qu'il a annoncé son intention de poursuivre son combat contre les Kurdes du PKK. Istanbul dimanche, Jérôme Bastion.
Éprouvé par le faux pas de juin dernier, l'AKP a sauvé la mise et son chef, le Premier ministre Ahmet Davutoğlu, a sauvé sa chemise. Avec 312 sièges sur 550 au Parlement, le Parti de la Justice et du Développement dispose d'une majorité qui lui permettra de gouverner confortablement. Mais ce résultat inespéré ne suffira pas à assouvir le grand rêve du président Recep Tayyip Erdogan d'instaurer un régime présidentiel fort et de diriger le pays en maître absolu, puisqu'il lui aurait fallu une majorité qualifiée de 330 sièges pour soumettre cette réforme à un référendum ou de 367 sièges pour l'adopter directement au Parlement. Le président, qui a adressé ses félicitations à son Premier ministre, probablement reconduit dans ses fonctions, et qui a estimé que cette victoire était un message fort adressé à la rébellion kurde du PKK. Pourtant, le parti pro-kurde HDP a lui aussi réussi à préserver de justesse sa représentation au Parlement et devient le troisième parti du pays. Dans la soirée, son président Selahattin Demirtas a promis de continuer à lutter contre la répression du peuple kurde, mais il ne paraît plus en mesure de proposer la relance des négociations pour une solution au problème kurde.
Suite d'une semaine d'actualité à Moscou, après le crash d'un avion russe samedi dernier dans le Sinaï, plus de 200 morts. Correspondance lundi de Muriel Pomponne.
La compagnie charter Metrojet décline toute responsabilité. L'avion était en excellent état technique. Nous excluons une défaillance technique ou une erreur de pilotage, a déclaré le numéro 2 de la compagnie. Et d'ajouter, la seule cause possible est une action extérieure. De quoi alimenter toutes les hypothèses, notamment celle d'un attentat, d'autant qu'un groupe affilié à l'État islamique affirme être responsable de la catastrophe. Mais d'après l'agence Reuters, les Égyptiens qui ont commencé à examiner les boîtes noires affirment que l'avion n'a subi aucune influence extérieure. Le porte-parole du Kremlin a pris la parole ce matin pour dire qu'en l'état actuel de l'enquête, aucune hypothèse n'était exclue. Il a surtout affirmé que Vladimir Poutine suit l'affaire de près, car le président russe est resté très discret depuis l'accident. Il vient de faire sa première déclaration à la télé à l'occasion d'un rendez-vous avec le ministre des Transports de retour d'Égypte. C'est une énorme tragédie et dans cette occasion, il est important de sentir la compassion du pays entier, a-t-il déclaré. Mais le Kremlin ne parle pas pour l'instant d'une visite du président à Saint-Pétersbourg auprès des familles.
Et maintenant, la thèse de l'attentat est privilégiée à Paris, à Londres et à Washington aussi. Et c'est une bombe placée à bord qui aurait provoqué ce crash selon les autorités anglaises. British Airways a supprimé ses vols dans la région. Suite d'une semaine d'actualité, Joris Zilberman est retour en Asie avec demain les élections en Birmanie. Écoutez ce reportage de Rémi Fabre.
Aung San Suu Kyi devant une marée de drapeaux rouges et de militants vêtus également de rouge, la couleur de son parti. Elle s'inquiète du vote par anticipation qui a déjà commencé en Birmanie pour les personnes qui seront loin de leur circonscription dimanche prochain.
Les fonctionnaires doivent être attentifs. Tout le monde ne peut pas voter par anticipation. Les fonctionnaires qui demandent à leurs subordonnés de voter pour tel ou tel parti, c'est aussi une violation de la loi électorale.
Aung San Suu Kyi demande aux électeurs de prêter attention le jour du vote. Tu Rain Thun, 24 ans, se sent démuni pour empêcher la fraude.
Ils sont au pouvoir. Ils vont frauder et on ne pourra pas l'éviter. Outiné, le dirigeant de la commission électorale, est avec eux. On ne peut rien faire. On peut juste jouer dans l'espace qu'ils ont bien voulu nous donner. Tout ce qu'on peut faire, c'est se réunir ici et parler de ces injustices sur Facebook.
Lors des dernières législatives, de faux bulletins de vote par anticipation arrivés après le dépouillement avaient servi à bourrer les urnes.
Reportage de Rémi Favre, suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Joris Zilberman, spécialiste de l'Asie, directeur du site Asialiste. Alors ça, là aussi, on parlait de la rencontre Taïwan-Chine populaire, c'est un événement important, c'est en quelque sorte la fin d'un processus, non ?
Mais c'est-à-dire que ces élections en Birmanie sont les plus libres depuis 1960. Alors évidemment, ça s'inscrit dans un processus qui a été ouvert donc dans les années 2000 par les militaires. Ce sont des élections où pour la première fois, eh bien, il y a une campagne électorale qui a été permise. Alors évidemment, il y a pu y avoir des obstacles, des violences, des zones où les candidats qui ne faisaient pas partie des partis liés à l'armée n'ont pas pu se rendre. Mais tout de même, il y a quand même des observateurs internationaux qui disent que la majorité des conditions sont réunies. Maintenant, ce qui se passe, c'est que qu'est-ce qu'on doit dire sur ce processus de démocratisation de la Birmanie ? Est-ce que du jour au lendemain, comme les experts le prédisent, le parti d'Aung San Suu Kyi gagne
la Ligue nationale pour la démocratie.
Exactement. Si la LND gagne les élections, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être en Birmanie la démocratie du jour au lendemain? Non. Et pourquoi? Parce que l'armée, qui a fait une nouvelle constitution en 2008, a préservé totalement, enfin en tout cas suffisamment, son pouvoir. C'est-à-dire que d'abord, il faut savoir que à l'occasion de ces élections, 25% des sièges parlementaires sont réservés à des militaires. Et en plus, le parti du SDP, le parti qui est au pouvoir, qui est lié à l'armée, en plus va se présenter pour avoir d'autres sièges. Donc c'est compliqué pour le parti d'Aung San Suu Kyi qui va devoir trouver la majorité absolue.
Et elle a dit cette semaine, ces derniers jours, Joris, qu'elle allait gouverner, qu'elle serait vraiment, elle voulait être le chef du gouvernement. Rappelons qu'elle ne peut pas, je crois, être présidente.
Absolument, elle ne peut pas être présidente parce que l'armée a fait en sorte, de façon constitutionnelle, que une personne qui est mariée ou qui a été mariée, comme c'est le cas d'Aung San Suu Kyi, avec un étranger et qui a des enfants qui détiennent un passeport étranger, ne peut pas être président ou présidente de la Birmanie. Il faut savoir qu'en Birmanie, il n'y a pas de premier ministre, c'est le président qui est le chef de l'exécutif. Alors là-dessus, Aung San Suu Kyi a accordé une interview très intéressante à un média indien, India Today, en disant « Je vais quand même être la leader du gouvernement si c'est mon parti qui remporte la majorité absolue. » Qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement? Elle peut être soit présidente de la Chambre basse, parce que vous savez que dans ces élections, il y a renouvellement de la Chambre basse et de la Chambre haute, soit ministre, et en particulier ministre des Affaires étrangères, puisque seuls ces deux postes, président de la Chambre basse et chef de la diplomatie, lui réservent un siège dans le Conseil de défense nationale, qui est évidemment le cœur du pouvoir. Et en cela, elle pourra espérer gouverner, en tout cas faire face aux militaires.
Alors, une petite polémique autour de Aung San Suu Kyi à propos des Rohingyas, la minorité musulmane. On dit qu'elle a appelé, par exemple, jeudi, elle a dit qu'il ne fallait pas exagérer leur drame.
Aung San Suu Kyi a compris quelque chose. Elle marche sur les œufs dans cette élection. C'est-à-dire que si elle joint sa voix, par exemple, aux extrémistes bouddhistes qui sont incarnés par une mouvance minoritaire, mais extrêmement bruyante, le Mabata, qui est dont l'une des figures proéminentes est le moine Wiratu, ces bouddhistes qui sont extrêmement islamophobes appellent vraiment à l'éradication des Rohingyas, en tout cas qui sont contre une présence musulmane en Birmanie. Le problème, c'est que si Aung San Suu Kyi veut être élue, elle ne peut pas prendre fait et cause directement pour les Rohingyas. Et c'est pour ça qu'elle tempère le débat, elle veut concentrer le débat sur autre chose que les Rohingyas. Et d'ailleurs, c'est un souci. La communauté internationale et les ONG se sont un peu déclarés déçus de ce que certains appellent un manque de courage d'Aung San Suu Kyi.
Oui, mais il faut rappeler que l'université, par exemple, américaine de Yale, qui a étudié la question, parle de génocide à propos des Rohingyas.
Mais absolument. Rohingyas, mais là, Aung San Suu Kyi ne veut pas prendre position, puisque déjà, elle ne peut pas devenir présidente. Alors, elle a peur que si elle dit un mot trop, l'armée l'exclut du processus électoral, et que là, patatras, tout repart à zéro pour les démocrates.
Alors, les résultats de ces élections sont à suivre, évidemment, sur RFI, dans nos journaux, et sur votre site, évidemment, Asialiste, j'imagine.
Absolument, on a déjà, pour information, un dossier spécial avec des infographies, des cartes, pour bien comprendre exactement les données ethniques, politiques, les enjeux sociaux, et surtout, à quoi ressemble déjà la Chambre haute et la Chambre basse, le Parlement, qui va être soumis au vote ce dimanche.
Joris Zilberman, on va se retrouver dans 3 minutes, après un point sur l'actualité de ces dernières heures. À tout de suite. Pour toutes ces informations, retour à notre voyage dans 7 jours d'événements avec la rédaction.
Une semaine d'actualité Pierre-Edouard Deldic.
Nous sommes cette semaine en compagnie du directeur du site Asialiste, directeur de la publication, rédacteur en chef, Joris Zilberman. Dans quelques minutes, Joris, nous partirons pour l'Afrique. Rendez-vous également avec les messages, quelques messages d'auditeurs. Mais attendons-nous un instant en France, comme d'habitude à cette heure-ci. Ce pays où la fiscalité est tellement compliquée que même le ministère des Finances s'y perd, semble-t-il. Cette fois, il s'agit d'une augmentation des impôts locaux pour certains retraités, augmentation décidée sous la présidence de Nicolas Sarkozy et annulée. Florent Guignard.
On veut bien le reconnaître au gouvernement, quitte à alimenter une nouvelle fois le procès en amateurisme, on a été rattrapé par la médiatisation de l'affaire. L'alerte n'est pas venue de Bercy et de sa puissante administration fiscale, mais d'une centaine de députés socialistes. Dès jeudi dernier, c'est le branle-bas de combat. François Hollande, toujours très présent sur les questions fiscales, demande au gouvernement de régler au plus vite cette affaire sensible. Hier encore, le secrétaire d'État au budget a enchaîné toute la journée les réunions pour trouver la Martin et éviter un nouveau coup de marteau fiscal. Christian Eckert demandant même aux retraités de ne pas payer leurs impôts locaux, le comble pour un ministre du budget. Mais l'affaire est éminemment politique. Le ras-le-bol fiscal exprimé par les Français depuis l'élection de François Hollande a laissé des traces. Le gouvernement rappelle volontiers que les retraités font aujourd'hui les frais d'une mesure décidée par Nicolas Sarkozy, mais le mal est fait. Un ministre se désole du coût budgétaire et du coût politique de cette polémique à un mois des élections régionales. Du plus mauvais effet, en totale contradiction avec la pause fiscale décrétée par François Hollande.
La semaine dernière, nous vous parlions de la décision française d'autoriser davantage d'émissions de diesel dans les moteurs des automobiles. Ce samedi, il nous faut revenir sur la décision de relancer le processus de construction du très fameux aéroport de Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes. Une atteinte à l'environnement, disent les Verts. Rappelons encore que dans 3 semaines, la France organise la COP21. Anissa El-Jabri.
Au ministère de l'Environnement, on est totalement furax. C'est un membre de la délégation présidentielle qui le dit. Dans l'entourage de Ségolène Royal, on désigne un responsable, Manuel Valls. Le Premier ministre n'a pas voulu donner raison aux zadistes, ces militants écologistes qui occupent le terrain. Il a voulu faire preuve d'autorité, ça, au ministère de l'Environnement. On dit le comprendre. Mais voilà, à 40 jours de la COP21 et des régionales, le timing est désastreux. Et on souligne, d'ailleurs, sur ce sujet, il n'y a que la droite qui se réjouit. Sur le fond, Ségolène Royal le rappelle souvent, elle est opposée à ce projet, ça va coûter des milliards pour rien. La situation est enquistée, il faut repenser ce projet, affirme un conseiller, peut-être même définitivement s'en passer.
Alors peut-être qu'un jour, un nouvel avion chinois qui vient d'être présenté au monde lundi se posera sur le nouvel aéroport de Nantes, si celui-ci est construit. Shanghai, Delphine Sureau.
L'avion chinois va bientôt voler dans les airs. S'enthousiasment les jeunes ingénieurs qui ont travaillé sur le C-919. Derrière eux, l'appareil parcourt ses premiers mètres au sol, dévoilant son fuselage G3 aux allures d'A320.
Nous sommes très fiers et honorés d'être là. Nous avons attendu si longtemps pour voir cet avion spectaculaire.
Il a fallu 5 ans et des retards à la Comac, le constructeur d'État, pour produire le premier grand avion de ligne made in China. Mais l'appareil d'une capacité de 168 passagers n'est pas 100% local. 16 entreprises étrangères ont participé à sa construction, comme le français Safran qui a fourni le moteur, comme il le fait déjà pour Boeing et Airbus. Jean-Luc Doublet dirige les programmes d'avions commerciaux pour Safran en Chine.
On a le moteur le plus récent et une nacelle très très innovante. Tout ça pour conduire à des réductions de consommation. On réduit les émissions polluantes et puis la consommation de fuel, c'est très important pour le coût d'opération de l'avion.
En termes de sécurité,
les contrôles faits par les autorités sont les mêmes, voire plus stricts parce qu'on les attend un petit peu au virage sur cet aspect-là. Donc franchement, la sécurité de cet avion, moi j'ai pas de souci.
La Comac a déjà reçu 517 commandes de compagnies chinoises majoritairement. Le C-919 doit effectuer son vol inaugural l'année prochaine.
Une semaine d'actualité donc, Joris Zilberman, voici un nouveau constructeur aéronautique.
Comme on l'entendait dans le reportage de Delphine Sureau, ils volent pas encore. C'est-à-dire que là, ce n'est qu'un prototype qui doit être testé donc en 2016 et qui sera commercialisé en 2018-2019.
Finalement, c'est étrange et risqué de faire ça. C'est-à-dire qu'il est présenté aujourd'hui, il volera dans quelques années. Peut-être que les essais vont montrer qu'il y a des problèmes techniques, que ça va repousser l'échéance, etc., etc.
C'est risqué, mais en même temps, il y a un carnet de commandes qui est rempli puisque il y a plus de 500 avions qui ont été commandés par des compagnies nationales chinoises. Il faut dire aussi que la construction, la conception fabrication de cet avion, qui n'est donc pas dans ses composantes 100% chinois, il y a des composantes américaines, françaises, de Safran par exemple, eh bien ça fait une dizaine d'années déjà que la Chine annonce cet avion a déjà dû voler depuis un an.
Donc il fallait le montrer à tout prix en fait.
Mais c'est un instrument de communication, de patriotisme économique qui est extrêmement important. En même temps, ce très lent processus et ces retards énormes montrent que la Chine a encore beaucoup de mal à s'insérer dans ce duopole Airbus-Boeing.
Alors on faisait référence à la COP il y a un instant avec les Notre-Dame-des-Landes, la construction, ce fameux projet relancé cette semaine. Donc vous consacrez-vous un dossier très intéressant sur la Chine et l'Europe dans cette perspective de la COP21.
La Chine, l'Asie aussi et l'Europe. Dans notre dossier, ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu filmer des interviews par exemple avec le conseiller climat de Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU. Et c'était à l'occasion d'une conférence organisée par Asia Centre et Asia Europe Foundation, qui essayait de faire dialoguer l'Asie et l'Europe. Alors, on connaît ce genre de plateforme off, c'est pas voué à résoudre les conflits, débloquer les négociations, mais en tout cas, c'est pour un échange d'expérience. Et ce que disait Ray Kwan-jong, donc le conseiller climat de Ban Ki-moon, c'est que l'Asie, une partie de l'Asie, vient chercher de l'inspiration dans les politiques climatiques européennes, par exemple l'écotaxe, mais que le gros problème de l'Asie sur la COP21 et sur la réduction des émissions, c'est bien que d'un côté, vous avez la Corée du Sud et le Japon qui ont l'argent et la technologie pour soit imiter les Européens, soit concevoir des innovations au service d'une croissance verte. Et de l'autre côté, il y a les Indiens et les pays pauvres aussi de l'Asie qui disent, attendez, nous, on a du mal à faire décoller notre croissance, donc on ne veut certainement pas que quelqu'un nous impose des contraintes qu'on n'aurait pas voulu nous-mêmes en matière de politique climatique. Et c'est tout ça, certainement, qui va faire le nœud de cette COP21 qui a lieu à Paris, donc du 30 novembre au 11 décembre, et c'est cette confiance et qui va financer l'adaptation aux conséquences désastreuses du changement climatique.
Sept jours en Afrique.
Et nous allons parler du sort des femmes sous certaines latitudes de Joris Zilberman. D'abord en Afrique, en Guinée, où certaines d'entre elles se sont mobilisées ces derniers jours contre les violences sexuelles. Reportage de Coralie Pierret à Conakry.
Du port autonome de Conakry jusqu'au quartier Bolbinet, plusieurs associations marchent contre les violences sexuelles. Oumou Kalsoum fait partie de ce collectif d'ONG.
Il y a eu un élément déclencheur qui est cette vidéo qui a fait le tour de Facebook. Mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a eu plusieurs cas de viol. Maintenant, c'est vrai qu'elle a choqué et on s'est dit, il est peut-être temps de se lever.
Parmi les manifestants, essentiellement des femmes, mais quelques hommes sont également présents.
En tant qu'homme, je ne suis pas du tout d'accord avec cette logique quand on dit que les femmes, généralement, ont toujours mérité de se faire violer. Non, je suis contre ces propos.
Premier arrêt de la manifestation, le ministère de l'Action sociale, puis direction le ministère de la Justice, où les revendications ont été lues devant le ministre Cheikh Sakho.
Il est désormais impossible de rester bouche cousue face aux attaques ignobles que subissent nos sœurs, nos mères et nos filles.
Vive les femmes !
C'est monsieur le ministre maintenant qui va parler.
Personne n'est au-dessus de la loi dans notre pays. À ma connaissance, il n'y a aucune plainte qui a été classée sans suite. C'est vrai que ce n'était pas le cas avant, mais c'est le cas depuis un certain temps.
Suite et fin, le cortège s'est dirigé vers le ministère des Droits de l'Homme, le ministre qui s'est lui aussi engagé à lutter contre l'impunité des auteurs de viols.
Alors repartons pour le continent que vous aimez, Joris, en Asie, donc, pour évoquer cette fois la condition des femmes en Afghanistan après la diffusion d'une vidéo montrant la lapidation de l'une d'entre elles, Kaboul, Joël Bronner.
Roxana avait une vingtaine d'années. Elle avait été mariée de force dans un premier temps à un homme bien plus vieux qu'elle, avant de tenter de s'enfuir avec un homme de son âge. La vidéo, vieille de près d'une semaine, vient de circuler sur les réseaux sociaux et a aussi été diffusée sur Tolo News, la principale chaîne de télévision afghane. On y devine une jeune femme dont seule la tête dépasse du trou dans lequel elle a été enterrée. Elle reçoit ensuite une salve de pierres au visage. Et il semblerait que la dizaine de jeteurs de pierres qui l'entourent soient des insurgés talibans qui ont la main mise sur le district où se sont déroulés les faits, ainsi que des chefs de guerre locaux. Cette vidéo, elle a si j'ose dire été authentifiée par la femme qui tient le poste de gouverneur de la province de Ror. Une rareté, il faut le souligner, dans ce pays musulman conservateur et patriarcal. Cette vidéo de lapidation, elle rappelle une autre séquence filmée qui avait beaucoup ému l'opinion publique, celle de Farunda. Notamment parce que cette jeune fille, par ailleurs lapidée pour des accusations infondées de blasphème, avait été tuée au cœur de Kaboul, une ville dont les mœurs passent pour moins fondamentalistes et rétrogrades que certaines zones reculées du pays.
Une semaine d'actualité donc, Joris, je voudrais avoir votre commentaire sur cette lapidation d'une femme en Afghanistan qui montre une fois de plus que les talibans progressent.
Oui, les talibans progressent. Alors, il faut savoir que dans cette province de Khor, cette province est aux mains des talibans et des seigneurs de la guerre, et que là, les talibans font ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire que l'adultère est puni d'une lapidation à mort. Et c'est-à-dire que selon une interprétation rigoriste de la charia. Et ce qui était édifiant dans cette affaire, c'est que l'Afghanistan se retrouve dans une énorme contradiction. D'un côté, il y a une constitution qui dit que les lois ne sauraient aller à l'encontre de la religion islamique, de l'islam. Mais de l'autre côté, ça contredit toute cette évolution démocratique et libérale, au sens de mœurs, plus libérale au sens occidental du terme. Et on voit bien que le nouveau président, Ashraf Ghani, est dans une mauvaise situation, puisqu'il s'est fait le défenseur du sort des femmes. Et donc, lui, il condamne vertement cette lapidation. Il faut dire que c'est la première lapidation publique dans la province de Khor. Et ce qui, en même temps, est derrière cette contradiction... C'est une autre contradiction, c'est-à-dire que c'est pas seulement les talibans qui procèdent ou qui sont pour la lapidation des femmes adultères, mais il faut rappeler quand même qu'en 2013, le gouvernement central en Afghanistan avait tenté une loi permettant des châtiments avec lapidation. Simplement, sous la pression de la communauté internationale, le gouvernement central afghan avait reculé.
Toujours l'Afghanistan, Joris, le Médecins sans frontières a publié ces dernières heures une vidéo montrant le bombardement américain sur son hôpital de Kunduz. Et l'affaire ne va pas s'arrêter là, parce que MSF veut que cette affaire soit mise au clair par une commission d'enquête indépendante.
Absolument. Alors là, on est là. Ce sont les États-Unis qui sont face à leurs contradictions, c'est-à-dire pourquoi bombarder un hôpital. Alors il y a toujours cet argument de mais vous comprenez, c'est un petit peu comme au Moyen-Orient, tout est mélangé, c'est-à-dire que les talibans, les terroristes se cachent, il est vrai, au sein de la population, et donc les militaires ou en tout cas les alliés des Américains peuvent dire on est forcé de bombarder des hôpitaux parce que c'est un impératif stratégique. Les Américains se sont excusés, ils ont reconnu qu'ils avaient fait une erreur, mais simplement ils ont fait l'erreur en connaissance de cause, puisque il faut savoir que le chef du bureau de MSF avait envoyé des messages au commandement américain pendant le bombardement qui a quand même duré une demi-heure, si je ne me trompe. Donc les Américains auraient eu le temps de stopper le bombardement, ils ont continué, ils avaient des objectifs, et là ils se sont rendus compte que c'était inacceptable, et évidemment MSF ne peut pas laisser passer ça.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc, merci pour vos messages. Continuez à nous écrire par courriel et à la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Un salut à quelques auditeurs qui nous écoutent sur le continent africain. Vous connaissez ce rendez-vous, Joris. Un salut, par exemple, à Fiacre, à Bangui, qui dénonce, je cite, « l'assassinat et la barbarie que subit la population de Centrafrique ». Fin de citation. Bonjour à Rabé Mahamat, à N'Djamena, à Aguidé, à Niamey. Un salut à Amadou, à Zinder, toujours au Niger, un auditeur fidèle. Merci, bonne fin de semaine, Amadou. Je salue également Lansana Camara à Conakry, Bassirou et Lazare à Ouagadougou.
RFI.
Suite d'une semaine d'actualité, Joris Zilberman, sachez qu'au Niger, l'armée a déployé des moyens aériens pour lutter contre Boko Haram. À retenir aussi une décision qui se remarque dans le contexte du moment, celle prise par les députés de la transition Burkina Faso de limiter à 2 le nombre de mandats des présidents. Et avant de retrouver l'Asie, suite d'une semaine d'actualité à Madagascar, pour revenir bien sûr sur la remise des prix de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon dans la capitale, lundi, correspondance de Jeanne Richard.
À l'annonce de son nom, c'est la joie pour Andrew Akutuwang, lauréat dans la catégorie journaliste, car pour lui, ce métier est une vocation.
Pour moi, le journalisme, c'est un peu plus. On n'a pas une vie de famille comme pour tout le monde. On est exposé à différents dangers. Donc, pour moi, c'est du courage, mais bien sûr aussi informer les gens et de montrer qu'il y aura toujours des journalistes qui seront dévoués pour essayer de leur apporter de la qualité au niveau de l'information.
Pour la Bourse, il a présenté un reportage sur le dialogue entre une mère prostituée et son enfant. John Sralain arrive, lauréat dans la catégorie technicien avec un montage sur les problèmes d'hygiène, a aussi su convaincre le jury, dont faisait partie Yves Rocle, responsable de l'information Afrique à RFI.
Pour les journalistes, le reportage qu'on a choisi est d'une extrême finesse et sans une once de voyeurisme, ce qui donne un reportage très digne et très révélateur d'une réalité sociale. Pour ce qui est du technicien, le reportage glisse tout seul. Il y a une illustration sonore parfaite.
Les deux lauréats vont maintenant pouvoir bénéficier d'une formation plus complète à Paris. Une belle opportunité puisque l'apprentissage du métier se fait bien souvent sur le tas à Madagascar.
Suite à fin d'une semaine d'actualité avec cette fois la reprise du dialogue entre la Corée du Sud, le Japon et la Chine. Vous voyez, on voyage dans le monde entier aujourd'hui plus que jamais. Joris Zilberman, c'est un événement que vous allez mettre en perspective dans un instant. En attendant, écoutons Frédéric Ojordias à Séoul jeudi.
Leurs sourires sont crispés, mais au moins ils se serrent la main. La présidente sud-coréenne Park Geun-hye et les premiers ministres chinois et japonais Lee Kyi-chang et Shinzo Abe ont réussi à mettre de côté leurs querelles territoriales et mémorielles pour discuter commerce et sécurité régionale. Ils ont déclaré être d'accord pour se rencontrer régulièrement et pour relancer complètement leur coopération. Une déclaration modeste mais encourageante, alors que les sujets de discorde se multiplient entre trois voisins qui à eux seuls représentent un cinquième de l'économie mondiale. Chine, Japon et Corée du Sud ont aussi promis des efforts pour parvenir à un accord de libre-échange. Mais aucun progrès n'est à signaler au sujet de leurs conflits territoriaux en mer de Chine et en mer du Japon. Aucune avancée non plus sur l'attitude de Tokyo face à ces crimes de guerre, notamment la question des femmes coréennes et chinoises obligées de se prostituer pour l'armée impériale pendant la Seconde Guerre mondiale. Un sujet douloureux qui sera abordé demain lors d'un sommet très attendu entre Park Geun-hye et Shinzo Abe.
Alors, il faut revenir avec vous, Joris, sur ce rapprochement. Il y a notamment un contentieux que vous traitez d'ailleurs fort bien dans un dossier en mer de Chine.
Et oui, c'est la toile de fond de ce sommet tripartite. Il faut voir que en mer de Chine orientale, eh bien entre la Chine et le Japon, il y a ce problème des îles Diaoyu en chinois, Sengaku en japonais. Ce sont les Japonais qui administrent ces îles. Elles sont revendiquées également par la Chine. Il y a une querelle historique qui est très profonde. Des tensions qui durent depuis une décennie et qui ont pris une ampleur particulière, même si c'est relativement plus calme récemment. Donc, ce n'est pas rien que la Chine envoie, non pas le numéro 1 Xi Jinping, mais son premier ministre Li Keqiang, serrer la main un peu comme les trois mousquetaires avec le premier ministre Shinzo Abe, japonais, et la présidente sud-coréenne Park Geun-hye. Donc, ce qui est aussi très important, c'est que du point de vue sud-coréen, ce n'est pas rien pour Park Geun-hye, la présidente de Corée du Sud, de rencontrer Shinzo Abe, puisqu'elle avait refusé de rencontrer le chef du gouvernement japonais. Et c'est l'administration Obama qui a convaincu la leader sud-coréenne de rencontrer Shinzo Abe. Donc c'est extrêmement symbolique. Ensuite, évidemment, l'autre dossier historique, mais ça Frédéric Ojordias le disait très bien, c'est le dossier des femmes de réconfort qui ont été ces femmes chinoises et sud-coréennes forcées par l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale à se prostituer pour les soldats japonais. Et le Japon, et en particulier le Japon de Shinzo Abe, a énormément de difficultés à reconnaître ses erreurs et à proposer des réparations. Et pour l'instant, il n'y a aucune avancée, mais c'est un fait quand même à souligner qu'il y a une rencontre donc entre Park Geun-hye, la sud-coréenne, et Shinzo Abe, le japonais, pour parler d'éventuelles réparations de la part du Japon à la Corée du Sud.
Alors, ce que je remarque, Joris, cette semaine, c'est qu'il y a des négociations tous azimuts, dirais-je. On a parlé tout à l'heure de la rencontre d'aujourd'hui entre le président chinois et le président de la Chine de Taïwan. Il y a eu cette rencontre Japon, Chine et Corée du Sud. On se parle.
Mais on se parle parce que en toile de fond, il y a autre chose. Il y a la stratégie américaine, puisqu'on on a vu que Barack Obama a réussi à faire progresser de façon décisive son accord de libre-échange, qui est l'un des plus gros accords de libre-échange de l'histoire, ce traité, ce partenariat transpacifique qui va réunir un certain nombre de pays d'Asie-Pacifique, sauf la Chine. Donc, c'est un accord qui est censé un petit peu contenir la puissance chinoise économique d'abord, mais aussi géopolitique dans la région Asie-Pacifique. Et c'est évidemment toute la doctrine du pivot américain de l'Europe vers l'Asie avancée par l'administration Obama. Alors oui, on voit la Chine qui négocie parce que la Chine voit bien qu'il faut qu'elle se bouge par rapport aux États-Unis. Et quant à la Corée du Sud, eh bien, elle garde cette attitude ambiguë, où elle est alliée des Américains, alliée des Japonais, avec une alliance qui est tendue, et en même temps qui ne peut pas ne pas travailler avec la Chine pour des raisons économiques évidentes.
Reste la question, Joris, de la Corée du Nord. Là, il n'y a pas de négociation. Hein.
Alors, pour le moment, les pourparlers à 6, entre les deux Corées, les États-Unis, l'Union Européenne, le Japon, la Russie, n'ont pas repris. Il faut d'ailleurs savoir que la Corée du Sud a besoin de la Chine et de l'intermédiation, de la médiation de la Chine pour maintenir ou ramener ou calmer les outrances de Pyongyang, du régime du dictateur Kim Jong-un. Donc, pour le moment, ce qu'on voit, c'est tout de même un certain abaissement des tensions, entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. D'abord, on a vu toute une séquence de réunions entre les familles qui ont été séparées depuis la partition de la Corée depuis 50-60 ans, des réunions extrêmement émotionnelles. Et les deux gouvernements parlent de renouveler cette séquence. Il y a aussi, ça avance un petit peu dans le bon sens sur plus de coopération économique aussi entre les deux Corées.
Alors terminons avec Asialiste, honneur oblige, on va terminer l'émission avec votre site qui parle aussi du Népal, de la reconstruction difficile, avec un article de Sébastien Farcy qui participait à notre émission il y a début septembre avec vous, le correspondant dans la région, sur la difficulté de faire des affaires en Inde aussi, un dossier très 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 intéressant. Votre objectif, vous, c'est de d'entrer en Asie le plus profondément possible pour être auprès des sociétés.
Absolument. Je crois que là où Asialiste sera utile, c'est si on donne accès à la complexité du monde asiatique. Et si on permet à nos internautes de se familiariser, de s'imprégner régulièrement, quotidiennement, de cette complexité, de cette subtilité. C'est notre rôle. Il y a des médias qui donnent de la news, des breaking news, du hard news. Et nous, notre rôle, c'est de dire, d'accord, on se pose, c'est le temps de la nuance. Et que ce soit sur l'Inde, qui a toutes les peines du monde à créer un environnement d'affaires qui soit, par exemple, équivalent à celui de la Chine. On parle de l'Inde, deuxième pôle de l'Asie en matière économique, mais il y a encore énormément de travail à faire pour le gouvernement indien, pour huiler tout cet environnement d'affaires, pour attirer davantage les investisseurs. Il y a des problèmes d'infrastructure, il y a des problèmes innombrables. Et c'est pour faire accéder à cette complexité et qui caractérise aussi cette imbrication géostratégique autour des mers de Chine du Sud et ces évolutions aussi d'alliances entre les différentes parties de l'Asie, Asie du Nord-Est, du Sud-Est et Asie du Sud.
Un site très clair où vous avez trois parties, les trois parties de l'Asie, Nord-Est, Sud et Sud-Est, qui permet de s'y retrouver assez facilement finalement.
Absolument.
Merci Joris Zilberman. Il faut donc aller sur votre site asialiste.com, tout simplement. Une semaine d'actualité et à bientôt.
À bientôt.
Chaque samedi, réalisé par Sophie Janin. Je vous retrouve demain pour le magazine Idée. Nous parlerons des insoumis. Il doit y en avoir quelques-uns en Asie, ou plutôt de quelques-uns d'entre eux, choisis par le philosophe Tsvetan Todorov dans son dernier livre, L'Insoumission, donc dans Idée. Demain dimanche, 16h10, temps universel, 17h10 en France. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI, bien sûr.
君不知。